France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. C'est mercredi, jour de sortie des films, et on va commencer par un son peut-être inhabituel pour notre émission.
L'action se déroule à une période particulière d'histoire américaine. C'était avant que le Far West ait vraiment été découvert. Il y avait des indigènes qui vivaient là depuis des milliers d'années. Et puis nous, on est arrivés, nous, la Nouvelle Amérique. Et c'était quoi la Nouvelle Frontière? C'était des hommes qui allaient dans les montagnes, les premiers trappeurs. Et la principale source de revenus en Amérique, c'était les animaux sauvages qu'on tuait pour envoyer leur fourrure en Europe ou ailleurs, pour que les gens puissent avoir de jolis petits chapeaux. Et ça, c'était la première vague du capitalisme qui arrivait dans un monde à l'état naturel. Mais qu'avons-nous fait? On a détruit les cultures indigènes, on a tué les animaux, abattu les arbres, extrait du pétrole, sans accorder la moindre importance à l'environnement.
Les propos tenus par Leonardo DiCaprio, qui s'est confié à Marie-Ève Malouine, notre consoeur de France Inter, c'était avant-hier Martin, pour la sortie ce jour du film The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Alors, pour nous, aujourd'hui, dans cette émission de Planète Terre, ils annoncent tout autant la grande journée mondiale de l'ONU pour la faune sauvage. Celle-ci se tiendra dans 8 jours, le jeudi 3 mars. Il s'agit d'attirer l'attention du monde et de tous sur l'avenir ténu de la faune et de la flore sauvage. Ouvrez les guillemets, l'avenir de la vie sauvage est entre nos mains, martèle l'ONU, et nous, ce sont les humains. Dans ce cadre, une espèce est particulièrement mise en avant comme un emblème, il s'agit des éléphants. Ainsi, l'avenir des éléphants est entre nos mains, nous dit encore l'ONU, mais nous, c'est qui exactement? Et quelle est l'exacte mesure du péril et que peuvent ou doivent entreprendre les différentes figures de ce « nous, les humains » interpellés par ce slogan et cette quasi-injonction? Peut-être est-ce la CITES, en tous les cas, organisme qui est à l'avant-garde de ce front de responsabilisation. Nos mains sont d'abord les siennes, nous dit-on. La CITES est en effet l'acronyme de Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Alors, dans cette émission de Planète Terre, nous ne pourrons parler, bien sûr, pas de l'ensemble de la biosphère. Et pour comprendre ce que veut dire un monde dont la vie sauvage est menacée d'extinction, je vous propose d'évoquer ces animaux emblématiques que sont les animaux de la grande faune. La grande faune est-elle condamnée à disparaître? C'est donc le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec 3 invités, Jackie Bonnemain, Farid Benamou qui est en duplex de Poitiers et Jean Estebanès. Bonjour à tous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jackie Bonnemain, vous êtes observateur pour l'ONG Robin des Bois à la CITES et à la Convention baleinière internationale et porte-parole de cette ONG, Robin des Bois. Farid Benamou, vous êtes professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles à Poitiers, donc, et chercheur associé au laboratoire Ruralité. Vos travaux sur le loup font autorité et vous venez de publier avec le photographe Rémi Marion, géopolitique de l'ours polaire. Vous en avez d'ailleurs tiré un article pour notre partenaire, le magazine Carto, actuellement en kiosque. Jean Estebanès, pour votre part, vous êtes maître de conférences à Paris, à l'université Paris-Est, si je ne m'abuse. Et vos travaux sur les eaux sont connus, en tous les cas, des auditeurs de Planète Terre, puisque vous nous en aviez entretenu à ce même micro. Alors, peut-être partons d'un état des lieux, si vous le voulez bien, les uns et les autres. Qu'est-ce que la grande faune, Jackie Bonnemain?
Les éléphants, grands singes, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les félins, les crocodiles, les hippopotames, tous les baleines, les raies-mantas, en général tous les animaux, qu'ils soient terrestres ou marins, qui sont perçus par l'homme comme des ressources alimentaires, comme des géants dangereux, gêneurs, et qui s'oppose à la suprématie de l'homme sur la planète et sur les océans. C'est comme ça qu'on la voit. Et c'est comme ça qu'on la voit, cette grande faune, sinon condamnée à la disparition dans les décennies à venir, du moins cantonnée, exploitée et menacée dans sa diversité, dans sa beauté et dans sa variété.
Et pour vous, Jean-Estébanès, vous qui, je le rappelle, êtes spécialiste, enfin, vous avez particulièrement étudié les eaux, est-ce que le terme de grande faune fait sens pour vous et pour ce monde, surtout occidental, mais pas que, où maintenant les grands animaux, on les voit surtout en captivité?
Oui, oui, tout à fait. La grande faune, bien dans le terme grande faune, il y a grand. Et donc, on peut se poser la question de savoir ce que c'est grand. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec qui nous sommes, nous. Grand, c'est grand par rapport à notre propre corps. Ce sont les animaux, au fond, qui ont au moins notre taille ou qui sont plus grands que nous et qui, de ce point de vue-là, vont entretenir une relation particulière avec nous. Ce sont les animaux les plus rares et avec qui, peut-être, nous partageons ce privilège de la taille. Donc, la première chose, c'est que je pense que ce terme de grande faune, il est construit parce que nous sommes nous. C'est un terme qui est social et qui dépend de son rapport à nous. Ça, c'est la première dimension, c'est la taille qui est en rapport avec notre propre corps. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième dimension hein, qui affleure dans tout ce qui a été dit déjà jusqu'à présent. Qui est le sauvage. Au fond, personne n'aurait cité ici, je pense, le cas d'une vache ou le cas d'une chèvre, qui sont aussi de grands animaux. La grande faune, ça renvoie à des représentations sur ce que c'est que la nature sauvage. Et donc là, effectivement, ça renvoie sans doute à quelque chose qui peut-être nous ramènera à l'Occident.
Jacques Bonnemain disait à la fois, disons, attirance esthétique, pourrait-on dire, et en même temps, concurrence, rivalité, crainte.
Absolument, c'est des animaux qui suscitent un imaginaire, c'est des animaux qu'on appelle parfois charismatiques, c'est des animaux qui effectivement ont des qualités qui les distinguent, et donc qui les distinguent dans des types de relations particulières qu'ils vont avoir avec nous, que ce soit des relations effectivement de peur, de crainte, d'admiration, de modèle effectivement. C'est des animaux qui sont souvent construits autour d'une esthétique, ce sont beaux animaux.
Et pour vous, Farid Benhamou, qui avait particulièrement étudié les relations entre les hommes et deux grands animaux, l'ours polaire récemment, et puis plus anciennement et peut-être plus longuement, le loup. Est-ce que...
Oui, et l'ours brun.
L'ours brun en particulier, des Pyrénées.
L'ours brun. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par les deux autres invités, même s'il est vrai qu'il est difficile de déterminer un gabarit bien précis, même si souvent on retient une quinzaine de kilos, mais qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, ce qui est vrai aussi, c'est que ce sont des animaux qui représentent en quelque sorte la face un peu mobile de l'environnement, de la nature, et qui, de longue date, ont fait réagir les sociétés. Et à ce titre-là, et on pourra d'ailleurs en reparler, ces grands animaux, et en effet ces grands animaux sauvages, n'ont jamais laissé les sociétés indifférentes et les ont fait réagir, voire même parfois, alors certes les ont considérés comme des rivaux, mais aussi comme des miroirs.
Des miroirs, c'est-à-dire, parce que des rivaux, on va bien sûr revenir là-dessus, et Jacques Bonnemain a commencé à évoquer ce thème, mais des miroirs.
Des miroirs, c'est-à-dire que bah, assez souvent, y compris notamment dans les sociétés qui pouvaient être des sociétés, on va dire animistes, eh bien ces animaux pouvaient être détenteurs d'un certain nombre de pouvoirs, faire partie de panthéons, et comme j'évoquais le terme de miroir, eh bien pouvaient dans des sociétés où justement la frontière entre l'humanité et l'animal n'était pas aussi rigide qu'elles peuvent l'être dans les sociétés, on va dire, occidentales, eh bien, pouvaient être des passeurs, des médiateurs et des créatures qui pouvaient être très proches des humains. On le voit bien notamment avec l'ours et puis aussi avec le loup qui est quand même l'ancêtre du chien, le meilleur ami de l'homme.
Jacques Bonnemain, cette dimension anthropologique et culturelle évoquée à l'instant par Farid Benhamou, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte à la fois dans votre action, dans l'action de Robin des Bois, l'ONG dont vous êtes le porte-parole, et pour autant que vous puissiez en juger en tant qu'observateur à la CITES par cette organisation internationale qu'est la CITES? Et si d'ailleurs vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque dans mes recherches j'ai eu l'impression, mais peut-être est-ce lacunaire, que c'était vraiment la disons, l'organisation gouvernementale, en l'occurrence intergouvernementale, qui a été vraiment en charge de cette question de la protection des espèces et de la grande faune en particulier.
Cette convention, elle est entrée en vigueur en 1976. Elle regroupe aujourd'hui 180 pays. Il y a très peu de pays qui en sont absents, le Tadjikistan par exemple, mais l'Irak l'a rejointe l'année dernière. Donc c'est un forum finalement qui n'est pas là pour protéger les animaux, mais qui est là pour développer d'une manière durable le commerce international des animaux vivants ou des parties d'animaux morts. Il faut bien comprendre que la CITES n'est pas un organe international de protection stricte des espèces. Elle est là pour protéger le commerce international.
Avec donc dans l'idée qu'en protégeant le commerce international, on permet sa durée dans le temps. Et que donc, par conséquent, il ne faut pas... disons, il faut conserver la ressource, c'est ça que vous...
Oui, c'est une ressource, effectivement. C'est de plus en plus une ressource financière. Le commerce des animaux atteint, en termes de revenus, des sommets absolument considérables et ça finance des groupes rebelles en Afrique, ça finance les guerres civiles et... En même temps, ça a des résonances préhistoriques. C'est lié à la magie noire, c'est lié à la superstition. Nous qui observons au jour le jour les actes de braconnage et de contrebande d'animaux sauvages, et en particulier d'espèces de grande faune, on se rend compte que les superstitions sont encore et toujours des motifs pour capturer les animaux. Et par exemple en Inde ou en Chine, qui sont des pays à la fois modernes et à la fois archaïques, qui développent l'industrie nucléaire et en même temps qui prétendent pour des millions d'habitants se soigner par exemple avec les moustaches des tigres qui passées entre les dents guériraient les abcès dentaires ou les os de léopard qui sur les genoux et les articulations guériraient à l'heure actuelle des rhumatismes.
Sur cette dimension anthropologique, de magie noire ou en tous les cas de chasse à la grande faune pour des vertus supposées. Jean Estebanez, est-ce que c'est pour vous comme, on va dire, la face sombre de l'attirance pour la grande faune au sein des eaux? Est-ce que c'est deux faces d'une même médaille?
Alors, effectivement, on peut qualifier ces pratiques de superstition, mais tout dépend des points de vue. C'est-à-dire que si on se place du point de vue des populations qui vont pratiquer ce genre de pratiques, on aura peut-être un discours qui sera très, très différent sur le principe de l'incorporation, par exemple, qu'on retrouve dans nos sociétés. Hein, il suffit de voir les publicités qui vantent l'eau de source avec des montagnes derrière. On a aussi dans nos sociétés des formes d'incorporation d'aliments qui fonctionnent de la même manière. Donc, il y a des sociétés qui prennent tout à fait au sérieux le fait qu'il y ait des circulations qui existent entre les animaux, les qualités des animaux et puis les qualités des humains. Par ailleurs, il y a des sociétés dans lesquelles il y a de la même manière des formes de continuité extrêmement puissantes entre les humains et puis les animaux et ce qu'on appellerait nous des prédateurs ou de la grande faune qui au fond ne serait pas qualifiée du tout de cette façon-là. Chez les hachoirs, par exemple, en Amazonie, bien étudié par Philippe Descola, il y a des formes de continuité qui font que les singes laineux, voire même les jaguars, vont être en fait des membres de la famille par alliance. Et donc, du coup, on voit bien que cette façon de qualifier la grande faune comme des êtres qui sont à part ou qui appartiennent aux sauvages est un point de vue qui est tout à fait situé. Et du coup, de la même manière, ce discours sur la superstition ou sur la magie, qui peut causer effectivement des torts à ces animaux, peut aussi être qualifié d'une façon très différente par ces populations elles-mêmes.
Oui, parce que qu'est-ce qui fait, et là je m'adresse à vous, tous trois. Qu'est-ce qui fait que ces pratiques, que je vais qualifier d'ancestrales, peut-être de manière trop rapide, sont aujourd'hui devenues source de ce qu'on pourrait appeler braconnage et source d'extinction en cours ou potentielle?
C'est du marketing. Il y a par exemple... Il y a par exemple quelques mois une rumeur qui a été lancée en Tanzanie comme quoi la moelle épinière de girafe guérissait du sida.
Et ça c'est une rumeur qui a donc si vous dites rumeur ça veut dire récente. Lancée intentionnellement.
Récente. C'est du marketing. C'est du marketing. Ça n'a c'est rien à voir avec la médecine traditionnelle, l'incorporation des animaux dans l'alimentation. C'est du marketing. Alors. Et depuis que cette rumeur a été lancée, les girafes dans les réserves de Tanzanie sont décimées.
Farid Benhamou, j'ai c'est entendu que vous vouliez intervenir. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes en duplex depuis Poitiers dans les studios de France Bleu Poitou. Allez-y.
Donc je disais que c'est aussi une question d'échelle parce que vous parliez de la médecine chinoise. Il est clair que le développement économique de la Chine et puis le fait qu'un certain nombre de personnes aient eu un pouvoir d'achat croissant fait que la demande a augmenté. Et un des cas symptomatiques actuellement, c'est le cas de la corne de rhinocéros. Hein. La corne de rhinocéros, donc qui fait partie de la pharmacopée chinoise, qui est à l'origine d'ailleurs de l'extermination des rhinocéros d'Asie, eh bien depuis quelques années a augmenter de manière considérable le braconnage sur les rhinocéros et notamment les rhinocéros blancs d'Afrique australe qui sont maintenant véritablement en voie d'extinction.
Alors, je voudrais vous faire écouter, peut-être pour amener soit de la complexité, soit davantage encore de diversité dans le débat, un court extrait d'un entretien que Jean-Marie Pelt avait accordé à l'émission Tout s'explique dans France Inter le 2 juillet 2008.
Le coltan, c'est un minerai d'un métal qui s'appelle le tantal, qui est un métal qui a pris une valeur colossale parce qu'il est nécessaire à la fabrication, surtout des ordinateurs, et des téléphones portables, en raison de sa grande résistance, de ses propriétés métallurgiques, de sa grande dureté aussi. Donc, partout où il y a du tantal, on exploite le tantal. Et ce coltan est vendu pour une bonne part sur des marchés parallèles. On le blanchit, comme on blanchit l'argent, par des mécanismes subtils qui le font finalement aboutir aux deux principaux producteurs qui sont l'américain Cabot et une filiale de Bayer. Ce trafic a amené toute une population extérieure sur les mines. Mais il faut que ces gens mangent. Alors ces gens se nourrissent en grande partie de ce qu'on appelle la viande de brousse. Et la viande de brousse, eh bien, ce sont des singes que l'on tue, et en particulier des grands primates, des gorilles. Ce sont des okapis que l'on tue aussi. Et il y a donc un rapport tout à fait surprenant entre nos téléphones portables et nos gorilles.
Alors là, c'est pas la magie noire, c'est pas le marketing, c'est pas, disons, des traditions qui, en raison à la fois de l'augmentation démographique et des moyens, là, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, Farid Benhamou, sur des traditions chinoises, c'est de manière très très inattendue, comme le dit Jean-Marie Pelt, lié à l'utilisation et la consommation d'objets qui sont maintenant devenus de consommation courante. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, Farid Benhamou?
On sait qu'il est vrai qu'on aurait tendance à trouver des circonstances atténuantes à des populations locales qui auraient tendance à se nourrir de viande de brousse. Mais en effet, le cas est assez symptomatique. On pourrait donner d'autres exemples. Quand on a une modification du milieu qui amène une masse de population, ça peut être aussi le cas de réfugiés hein, dans le cadre de guerre, qui vont se retrouver en forêt. Eh bien, ils peuvent être amenés justement à se nourrir sur cette faune sauvage. Et d'ailleurs, un des autres effets collatéraux de ce qui vient d'être dit, c'est que on a des milieux qui sont de plus en plus pénétrés, hein, y compris en Afrique équatoriale, en Afrique centrale, des milieux qui sont détériorés et qui aussi mettent en contact des populations animales avec des populations humaines et permettent aussi la diffusion de virus. Et notamment, c'est le cas des nouveaux virus, enfin des nouveaux, ils sont parfois assez anciens, hein, comme Ebola ou même Zika, qui menaient leur vie de manière assez isolée parfois dans certaines forêts, certains marais. Et puis l'ouverture des milieux, l'afflux de population humaine, mettant en contact justement ces humains avec ces animaux qui peuvent être aussi consommés, eh bien, on arrive à des situations où certes, on a cette faune qui est décimée, mais aussi un effet démultiplicateur avec des épidémies qui peuvent se retrouver chez les humains qui peuvent ensuite les redonner à d'autres faunes ailleurs.
Alors, à ce stade, est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, les uns et les autres, peut-être nous aider à avoir à la fois à cartographier le phénomène de l'extinction ou de la menace d'extinction, quels sont les territoires concernés, quelles sont les espèces qui sont les plus menacées, et puis si ça vous paraît possible également nous aider à le quantifier. Bon, moi, par exemple, j'avais trouvé pour chiffres, notamment sur la newsletter à laquelle je suis abonné, hein, je le dis, à la trace donc de l'ONG Robin des Bois, dont vous êtes le porte-parole, Jackie Bonnemain. J'avais trouvé en 2013 une information comme quoi le nombre de tigres était de 100 000 individus au début du XXe siècle. C'est ça, du XXe siècle. Et aujourd'hui, il serait plus que de 3 000, hein, si ma mémoire ne me trahit pas. Est-ce que ça, c'est, on va dire, c'est un cas emblématique ou illustratif, ou est-ce que c'est un cas, on va dire, un peu hors norme?
Non. C'est un cas qui n'est pas hors norme sur tous les continents. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord au sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Arctique et même en Antarctique, toutes les grandes espèces sont menacées ou bien par la pêche ou la chasse intensive ou bien par le braconnage et aussi, et je dirais presque surtout, par la fragmentation des habitats, par la déforestation, par l'assèchement des mangroves, par la construction de barrages, par les pollutions aussi, les pollutions chimiques. Et on s'aperçoit que sur la planète entière, toutes les espèces de grande faune sont en régression absolument indiscutable. Je voulais revenir très vite sur les cornes de rhinocéros en précisant quand même que le conseil de l'ordre, si je puis dire, de la médecine traditionnelle chinoise et le gouvernement chinois et les experts au Vietnam ont démenti que les cornes de rhinocéros avaient des vertus médicinales. Si les cornes de rhinocéros font l'objet d'un trafic absolument insensé et fanatique, c'est simplement parce qu'elles sont réputées augmenter la puissance sexuelle, hein, c'est tout.
Pour leurs vertus aphrodisiaques. Jean Estebanez, est-ce que ça suscite un commentaire, un éclairage que vous pourriez nous donner? Les conseils de l'ordre de médecins des pays concernés, le gouvernement, disons, établissent ou rétablissent une vérité scientifique, et pour autant, ce commerce continue. Alors, est-ce que c'est... comment est-ce qu'on peut l'expliquer anthropologiquement?
Ah, je ne sais pas si je peux l'expliquer anthropologiquement, là, ou alors peut-être autour de la question du gain, où il y a effectivement derrière ces trafics des intérêts économiques très, très importants. Hein. On estime à au moins une vingtaine de milliards de dollars les bénéfices tirés du trafic illégal d'animaux vivants ou morts, hein, ce qui en fait un des troisième ou quatrième trafics les plus importants derrière les drogues ou le trafic d'humains.
Et ça veut donc dire qu'il y a une demande, voire une demande sociale.
Oui, absolument. Cette demande, effectivement, hein, je pense qu'elle relève de cette question d'incorporation, de qualité qu'on attribue à ces animaux, qui sont des animaux charismatiques, je le disais tout à l'heure, parce qu'ils vont effectivement avoir des propriétés physiques ou des propriétés morales attribuées qui leur sont propres. Et effectivement, ingérer cette poudre de cornes de rhinocéros, ça va nous donner une puissance sexuelle incroyable. Donc effectivement, il y a vraiment cette idée, je pense, du transfert possible, cette circulation transformation qui va se faire depuis les animaux, à travers les objets, jusqu'aux humains, et qui ne s'arrête pas aux animaux. On trouverait ça avec des objets, avec certains objets, avec certains lieux, qui ont le même type de propriétés.
Mais alors du coup, dès lors que les prises de position des autorités publiques ne viennent pas, on va dire, tarir ce type de trafic, est-ce que les uns et les autres, vous avez des préconisations finalement ? Et est-ce que vous avez le sentiment que les organisations intergouvernementales qui sont censées y veiller font quelque chose ? Jean-Estéban Hetz.
Peut-être qu'une des questions, c'est de se dire que les animaux, il faut les protéger, non pas en mettant à l'écart de nous-mêmes, mais en créant des formes de continuité. On voit bien qu'en fait, les projets de conservation, donc ceux qui marchent, ceux qui vont justement permettre d'éliminer les trafics, sont ceux dans lesquels les populations locales y trouvent un intérêt économique, y trouvent un intérêt personnel, y trouvent un intérêt moral. Et on voit bien, par exemple, avec le cas des éléphants, qu'il y a des situations très contrastées dans lesquelles certains projets essayent de mettre ces éléphants, par exemple en Inde, dans des réserves en les séparant des humains. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des effets de confrontation entre ces éléphants qui vont venir attaquer des villageois, piétiner des cultures. Et puis on a des cas de populations, par exemple dans le nord-est de l'Inde, dans lesquelles les éléphants travaillent avec les humains. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des communautés en fait d'humains et d'animaux qui ont des intérêts communs et qui vont aboutir à une protection mutuelle. C'est-à-dire que les éléphants dans ces communautés-là seront pas du tout braconnés, simplement parce que ce sont des compagnons de travail, ce sont des êtres utiles au quotidien et avec qui on s'engage.
Alors je vous propose d'écouter, avant je vous donne la parole juste après, Jackie Baudemin, un second témoignage.
Avant, à cause de la guerre, les gens d'ici ne pouvaient pas travailler et gagner de l'argent. Maintenant, grâce à la paix, on peut travailler dans nos plantations, dans nos rizières. Mais si la guerre est terminée entre les hommes, on est en guerre avec les animaux. Ils détruisent tout notre travail.
Depuis la fin de la guerre, la déforestation a repris à Aceh, que ce soit de la part d'entreprises ou bien des paysans qui maintenant peuvent travailler en toute sécurité et donc défrichent plus de terre que ce qu'ils avaient avant. Mais du coup, le territoire des animaux diminue et donc ils empiètent sur celui des hommes. On écoute Darmawan, un homme qui vient du même village que Saifuddin.
Depuis que le conflit est terminé, les éléphants sortent de la forêt. Peut-être une fois par semaine, ils viennent et détruisent les plantations. On n'ose pas les chasser. Si c'était des hommes, on pourrait leur parler, leur dire de partir. Mais avec les éléphants, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça vous fait peur, les éléphants, ils sont tellement gros. Les tigres, par contre, il n'y a pas de problème. Même si les tigres mangent les gens, c'est rare. Et ils ne détruisent pas les récoltes. Mais les éléphants, ça fait peur.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors la guerre à laquelle ce double témoignage faisait allusion, c'était la guerre d'indépendance ou de Banda Aceh, donc à l'extrême nord-ouest de l'île de Sumatra, donc on est en Indonésie, et c'était le 13 avril 2009 au micro de Solène Honorine pour l'émission « Et pourtant elle tourne ». Alors, il y a cette phrase que je trouve extraordinaire à propos des éléphants, dit le villageois qui a été interrogé, « Si c'était des hommes, on pourrait leur parler ». Jackie Baudemin.
Il faut qu'ils fassent comme Tintin dans les cigares du pharaon, qu'ils apprennent à parler éléphant et surtout qu'ils respectent le territoire ancestral des éléphants. Parce que quand on parle des conflits éléphants-agriculture, on oublie de dire que c'est l'agriculture qui pénètre dans le domaine ancestral des éléphants sans accorder aux éléphants des mesures compensatoires ou des territoires réservés. Et ce qu'on observe dans les conflits hommes-éléphants, à Sumatra, comme ailleurs, en Inde aussi, où les éléphants, finalement, en Asie, sont encore plus menacés qu'en Afrique, c'est que quand il y a un éléphant qui est zigouillé, ses défenses disparaissent. Et ces gens-là qui se disent menacés par les éléphants négocient les défenses d'éléphants, l'ivoire qui est vendu par la suite en Chine au prix de entre 2000 et 5000 dollars le kilo. C'est-à-dire qu'il tire bénéfice des gêneurs, hein, faut pas l'oublier.
Farid Benhamou, votre commentaire, votre analyse sur ce sujet, vous qui n'êtes pas spécialisé d'éléphants, mais des loups, des ours bruns et des ours blancs.
Non, mais c'est vrai qu'on pourrait revenir sur cette histoire de concentration de grandes faunes sur des réserves. Et après, on s'étonne que ces animaux qu'on a réduits sur des espaces qui sont dignes de timbre-poste finissent par en sortir.
C'est ce qu'on appelle des conflits d'usage, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Mais juste à l'échelle, si on revient à l'échelle globale, il y a 7 milliards d'humains, 70 milliards d'animaux d'élevage sur Terre. La faune sauvage, et notamment nos grands animaux, mais toute la faune sauvage, les grands vertébrés sauvages, c'est 2% de cette biomasse. Donc, ça donne un peu un ordre d'idée, parce que tout à l'heure, vous vouliez un petit peu avoir une espèce de cartographie
Merci
générale.
D'y revenir,
c'est vrai que on a un constat d'ensemble comme cela qu'on vient de donner qui est relativement alarmant. Mais je vais apporter une toute petite nuance. Il est vrai que malgré tout, on a souvent au plan local on peut avoir un certain nombre d'améliorations qu'il ne faut pas nier. Si je prends le cas des grands carnivores, par exemple, à l'échelle mondiale, il est vrai que les grands carnivores, c'est les grands prédateurs, ça va être les lions, les tigres, les ours polaires, les ours bruns, les loups, dans leur ensemble, pour les carnivores terrestres, hein, j'entends. Ils ont tendance à régresser un peu partout, mais on s'aperçoit que dans certaines parties du monde, et c'est notamment le cas dans certains pays d'Europe, on a des progressions pour le loup, pour l'ours, y compris en Amérique du Nord pour certaines espèces. Je parle pour le loup, l'ours noir est stable, l'ours brun a tendance à régresser, et alors l'ours polaire en aura tendance à y revenir. La situation qui est bien sûr qui n'est pas celle qu'il devait être au 19e siècle, hein. Elle est beaucoup plus contrastée à l'échelle locale où on a en effet des sous-populations qui se portent très mal, des sous-populations qui sont stables, une ou deux qui sont en progression, la meilleure progression, et puis un certain nombre où il faut dire ce qui est, on manque aussi d'informations.
Et je précise, hein, je le dis parce que je sais que vous Farid Benhamou, vous ne le direz pas, bien sûr, mais que cette cartographie des sous-populations de l'ours polaire, on la trouve notamment dans l'article que vous avez publié avec Rémi Marion, qui résume votre livre et qui est actuellement dans le numéro courant du magazine Carto, qui est en kiosque, donc pour tous les auditeurs qui souhaiteraient voir cette carte, et puis peut-être que quand le magazine en question ne sera plus en kiosque, je demanderai à nos partenaires de Carto s'ils veulent bien, avec votre accord bien sûr Farid Benhamou, qu'on la mette
bien
sur
sûr,
le
bien
site
sûr.
De France Culture. Donc, j'entends bien, vous avez apporté là des nuances importantes en disant que selon les territoires et les espèces, tout n'était peut-être pas définitivement et totalement fichu. Il est vrai aussi que Jackie Bonnemain, j'ai trouvé en préparant l'émission, j'essaie de remettre la main dessus, un extrait des propos que vous aviez accordés aux Parisiens, hein, dans un article paru le 31 décembre 2015, vous indiquez que, cette année, je vous cite, un certain nombre d'animaux que l'on croyait disparus a refait surface, on a aussi découvert de nouvelles espèce, donc note Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois. Parmi les nouveaux venus, on compte une grenouille transformiste en Équateur. Alors ça, c'est pas la grande faune, mais une tortue géante aux Galapagos ou encore des singes éternueurs dans l'Himalaya. Alors, Jackie Bonnemain, s'il fallait faire un bilan, vous diriez que il faut vraiment qu'on soit désespéré sur la situation.
Monsieur, cette interview que j'ai donnée aux Parisiens, c'était le 1er janvier
31 décembre 2015.
31 décembre. Le Parisien avait besoin de bonnes nouvelles.
Oui, non mais vous voulez dire que dans vos propos, ils n'ont pris que
qu'on recherche que dans nos archives quelques lueurs d'espoir. Mais il y en a d'autres. La principale,
La Raie-Manta,
qui est inscrite à l'annexe 2, dont le commerce donc international est désormais soumis à des permis d'importation et d'exportation, mais qui continue à être braconné dans la mer des Célèbes et tout autour de l'Indonésie et des Philippines. Mais ce qui nous donne quelque espoir, c'est qu'on se rend compte que dans le fin fond, si je puis dire, de l'Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Iran, il y a des gens, des organisations locales, des vétérinaires, des naturalistes, des bonnes volontés, qui continuent à se battre et qui persistent à argumenter et à prendre des risques sur le terrain pour éviter la disparition des espèces menacées. Et c'est ces milliers de petites étoiles qui brillent comme ça dans la planète, sur la Terre, qui nous donnent quelques espoirs. Et il faut absolument que tous ensemble, je parle de toutes ces ONG locales, régionales, internationales.
Des initiatives de la société civile.
On casse ce mythe de l'animal gêneur, concurrent, perturbateur, et qu'on essaye et qu'on prenne la décision de les respecter. Il faut absolument que l'espèce humaine arrive à respecter les autres et à lui laisser de la place. Mais c'est facile à dire. Mais il faut aussi que la France prenne ses responsabilités. Quand on voit les loups arriver, se rapprocher, arriver dans l'est de la France et qu'on entend la presse dire les loups se rapprochent de Paris.
Ah oui.
Ça réveille des connotations absolument politiques même et fantasmatiques qui sont très loin de la vérité.
Farid Benhamou, alors vous partagez ce point de vue. Et puis je voudrais aussi vous interroger, Farid Benhamou et Jean Estebanez, deux chercheurs. Jacky Bonnemain est un acteur. Pourquoi est-ce que c'est si important de défendre la grande faune? Et à votre avis, comment expliquer que certains acteurs, certaines personnes ou certains segments de la société civile se sentent investis de cette mission-là? Parce qu'après tout, hein, là vous voyez bien, je me fais l'avocat du diable, on peut avoir des auditeurs qui disent « bah oui, bien sûr, c'est très important la grande faune, mais il y a des causes beaucoup plus cruciales et on ne peut pas se démultiplier. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas plutôt de la pauvreté? Parce que quand on s'occupe de la grande faune, on ne s'occupe pas de la pauvreté. » Bon, alors...
Ça, c'est pas dit.
Vous allez nous répondre. Alors, attendez, on donne d'abord la parole à Jean Estebanez, puis ensuite à vous, Farid Benhamou, sur ces deux points.
Alors, effectivement, c'est pas dit parce que les choses sont connectées. Et de fait, hein, si on reprend toujours cet exemple des éléphants, ce qu'on voit, c'est que ces éléphants dont je parlais, donc là, c'est vraiment le nord-est de l'Inde, hein, c'est une population qui s'appelle les Kanti, et qui vivent, en fait, qui vivaient, puisque là, justement, on voit l'intervention du politique, qui vivaient du débardage de la forêt, bois qui sont désormais protégés dans le commerce international, qu'on ne peut plus exporter. Donc cette population en fait vivait de l'exportation de bois qu'elle débardait à l'aide d'éléphants. Et donc là, ce qu'on observait, c'était que l'éléphant était une grande faune employée comme un compagnon de travail. Et dans ces communautés, l'éléphant n'était pas du tout braconné, tout simplement parce qu'il était un compagnon des humains et un outil de travail. Et donc on partageait une vie commune dans le travail. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en souhaitant protéger ces forêts tropicales, eh bien ce qu'on a réussi à faire, c'est à supprimer finalement la source de revenus de ces populations qui du coup ont commencé à vendre leurs éléphants et qui du coup ont commencé à être vendus, exportés pour finir parfois entre de très mauvaises mains. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des sortes de connexions très très puissantes entre cette protection de la grande faune et puis des questions de subsistance, des questions de pauvreté, des questions politiques, des questions technologiques. Hein. Au fond, les choses sont liées les unes aux autres. Et c'est tout à fait difficile, je pense, d'isoler la question de la grande faune de questions sociales tout à fait préoccupantes.
Farid Benhamou.
Oui, donc pour en revenir à vos questions sur l'intérêt de défendre cette grande faune, alors c'est intéressant, vous posez la question à un chercheur, alors que c'est plutôt une ONG qui pourrait dire l'intérêt de défendre cette grande faune. Mais en tant que chercheur, moi, à titre personnel, je n'ai pas peur de dire que défendre ces espèces-là, c'est aussi nous défendre nous-mêmes. Et c'est un petit peu, je pense, en substance, ce que voulait dire aussi Jean Estebanès, puisque nous ne vivons pas dans des espaces qui sont complètement clos. Et pour en revenir justement aux grands prédateurs et notamment aux loups, il est vrai que dans nos sociétés où nous aimons tout contrôler, on a des espèces qui sont entre guillemets incontrôlables et qui peuvent causer un préjudice tout à fait réel. Mais comme il s'agit de grands carnivores, d'une grande faune, disons que on va beaucoup moins leur tolérer de choses que s'il s'agissait éventuellement de dégâts causés par du gibier, par exemple, ou par des animaux domestiques, ou par des intempéries. Parce que justement, ces animaux fonctionnent en quelque sorte comme des catalyseurs. Et même, j'avais employé tout à l'heure le terme de miroir, parce que derrière ces animaux, on va aussi parfois trouver d'autres humains qui seraient supposés vouloir la fin, par exemple, des éleveurs ou des agriculteurs. On va accuser des écologistes, on va accuser l'État centralisateur parisien de vouloir, par exemple, la fin des éleveurs. Alors, ce qui est bien sûr très très manichéen, puisque en fait, on s'aperçoit qu'au sein même de l'État, pour prendre le cas de l'État français, eh bien, on a des voix qui sont favorables à la prise en compte de la protection de ces espèces, et puis d'autres qui sont défavorables. Même si, à l'heure actuelle, je dois vous dire que concernant le ministère de l'Écologie, notamment Ségolène Royal, ses positions sur le loup peuvent laisser, je pense, dubitatif les protecteurs de l'environnement, parce que là aussi, on a affaire à un animal, je pense, qui pose des problèmes mais auxquels on n'apporte pas forcément les bonnes solutions.
Alors, nous sommes dans Planète Terre, l'émission de géographie des enjeux globaux de France Culture, et je vous propose donc de ne pas vous relancer sur Ségolène Royal, mais en tout cas, peut-être en reparlerons-nous, mais de faire un détour à nouveau par l'Indonésie, à nouveau par Sumatra, pour nous intéresser à la politique publique ou à un élément de politique publique qui est en train d'être mis en place s'agissant du tigre de Sumatra.
Ce n'est pas une plaisanterie. Hein. En Indonésie, on pourra bientôt adopter un tigre de Sumatra, une espèce en voie de disparition. Le gouvernement va présenter un plan. Il faut tout de même réunir pas mal de conditions. Hein.
Oui, et puis d'ailleurs, d'abord, il ne s'agit pas de vendre les tigres, mais juste de les mettre sous la garde de particuliers, qui d'ailleurs seront soumis à des contrôles réguliers pour être sûr que les animaux sont bien traités. Donc concrètement, ce qu'il faut pour s'offrir un tigre, c'est de disposer d'un terrain qui fasse plus ou moins la taille d'un terrain de foot et d'aménager une cage qui fasse au moins 60 mètres carrés. Donc en fait, ce serait comme un mini zoo. Et ensuite, le particulier devrait payer un acompte au gouvernement de 70 000 euros quand même. Et les bénéfices de l'opération seront consacrés à la protection des animaux sauvages.
Alors on l'a dit, le tigre de Sumatra est une espèce en voie de disparition. Et c'est justement pour les protéger que le gouvernement prépare un projet de loi.
Oui, et d'ailleurs, c'est un parti pris donc assez original. Donc, tous les tigres seront des tigres de Sumatra, une espèce en voie de disparition. Il en reste que quelques centaines à l'état sauvage. Et même, d'ailleurs, avec ce petit nombre, ça pose souvent problème parce que leur habitat naturel se réduit à cause de la déforestation. Donc, ils entrent de plus en plus en contact avec les hommes et ça cause parfois des accidents mortels côté homme et côté tigre. Donc, l'idée du gouvernement, c'est de faire favoriser la reproduction des animaux en captivité pour éviter que les tigres de Sumatra aient le même destin que les autres cousins indonésiens, les tigres de Java et de Bali, qui ont disparu depuis déjà bien longtemps.
Alors, ça m'inspire deux questions, ce reportage de à nouveau Solène Honorine, à nouveau dans Et pourtant elle tourne, mais cette fois c'était le 25 janvier 2010. D'abord, est-ce que c'est une mesure gadget ? Vous allez nous le dire. Et puis surtout, est-ce qu'il convient de comprendre que le tigre, finalement, ne survivra plus qu'en captivité, que dans des conditions artificielles? Vous avez vu, ma consoeur de France Inter, d'elle-même, a comparé les conditions évoquées à l'époque par le gouvernement indonésien à des espèces de zoos individuels. Jackie Bonnemain.
Oui, c'est un gadget, c'est un recul, c'est une démission. À vrai dire, que de faire de telles propositions, c'est condamner le tigre de Sumatra, en tant qu'animal sauvage, partie d'un écosystème, d'une chaîne alimentaire sauvage, le condamner à la domestication et à l'absence de reproduction, bref, à l'extinction. C'est une erreur, c'est une vitrine, c'est un gadget, c'est grave. Ça nous renvoie à la politique des zoos, et puis aussi à cette terrible manie dont on n'a pas encore parlé dans l'émission, des nouveaux animaux de compagnie. C'est finalement proposé à une famille riche d'avoir non pas un chat, mais un tigre.
Un très gros chat.
Un très gros chat, oui, un tigre. Et donc on le voit sur tous les continents, des collectionneurs d'animaux exotiques. Et cette habitude des nouveaux animaux de compagnie, eh bien, on en voit une nouvelle illustration dans cette proposition. Position absolument désespérante et désespérée de je ne sais quel gouverneur de région d'Indonésie.
Alors, Jean Estebanez, votre réaction sur ce type, j'ose à peine dire, de politique publique.
Oui, effectivement, je crois qu'ici, on peut rejoindre ce que vous venez de dire. Il y a sans doute ici quelque chose qui renvoie à une longue tradition de l'animal sanctuaire. C'est au fond un signe de pouvoir, de richesse, et puis ceci une source d'entrée dans les cassettes de l'État. Alors, je pense que ici, ce qui est tenté de ce qu'on tente de mettre en œuvre, c'est ce qu'effectivement les zoos, d'une certaine façon, tentent de pratiquer, qui sont de se transformer en arche de Noé, c'est-à-dire en espace où des espèces en voie de disparition trouveraient un havre de protection, le temps que les humains se rendent en fin de compte de ce qu'ils sont en train de faire à la planète Terre, pour que dans un futur meilleur, nous puissions enfin réintroduire ces animaux dans un monde meilleur. Donc c'est une vision assez utopique, c'est une sorte de grand récit d'un progrès possible qui a transformé la position des zoos. C'est un discours de légitimation fort qu'ils ont réussi à construire, qui pose évidemment des problèmes, notamment pratiques. Il n'y a pas assez de place dans les zoos. Le patrimoine génétique de ces espèces se transforme progressivement avec le temps. En fait, ces espèces deviennent des espèces à part. Et c'est au fond là le principal problème.
Les animaux qui sont dans les zoos deviennent des espèces à part au sein de leur grande espèce d'origine.
Leur patrimoine génétique se transforme. Et puis c'est surtout, c'est peut-être la transformation la plus importante, c'est que ces animaux deviennent des animaux de zoo, c'est-à-dire des animaux qui vivent essentiellement avec des humains. Alors là, je pense qu'il y a une chose importante à ne pas faire, c'est de juger ça comme étant artificiel ou nécessairement néfaste ou mauvais. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est des animaux qui vont être radicalement différents d'animaux qui vivent sans les humains. Ce qu'on fait aux zoos, ce qui se passerait dans ces espaces-là, c'est de créer des liens très forts avec les humains. Et on voit que les animaux sont tout à fait plastiques, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement développer des types de compétences, faire des choses qu'ils ne feraient pas sans les humains, mais dans les faits, ils seraient ensuite tout à fait incapables de vivre avec leur... l'état sauvage, j'ai toujours du mal avec ce terme de sauvage, parce qu'il est tellement connoté, mais effectivement, de vivre sans les humains, en tout cas dans des espaces lointains, des espaces humanisés. Donc en fait, ce qui se passe, effectivement, c'est plutôt que là, on est en train d'humaniser ces grands tigres.
Farid Benhamou, et vous, votre point de vue sur cette question, et aussi en passant sur les zoos, puisqu'on a bien entendu que Jackie Bonnemain et Jean Estebanez n'avaient pas la même vision de la fonction, voire, disons, de l'apport en termes de valeur culturelle du zoo. Et vous ?
Ben ça peut aussi nous amener sur justement les espèces vitrines, les espèces emblématiques. Et on peut prendre le cas de l'ours polaire qui peut illustrer les propos des deux autres invités.
Jackie Bonnemain et Jean Estebanez.
En effet. Oui, en effet, vous avez eu l'Association internationale des zoos, qui, notamment certains zoos, qui misent beaucoup, avec l'appui même parfois de certains scientifiques, sur la protection de l'ours polaire. Et on a vu des communiqués de presse disant que, bien, en gros, vu que l'ours polaire étant mal barré, eh bien, sa seule bouée de sauvetage, sa seule planche de salut serait d'être sauvé dans des eaux. Ce qui relève purement et simplement de la blague, hein, ou de clairement de l'escroquerie. Quand on voit la différence entre, en effet, comme ça a été dit par Jean, un milieu de zoo et puis l'Arctique, qui est un milieu extrêmement rude, qui a nécessité une adaptation, je dirais, particulière de l'ours polaire. Et donc, et je dérive un petit peu sur le côté vitrine, puisque ces espèces emblématiques-là sont aussi utilisées pour donner une façade verte. Et on peut prendre le cas du gouvernement chinois avec le panda, par exemple, qui a développé un partenariat avec le zoo de Beauval en France, et qui en profite pour faire un amplificateur de son centre de reproduction qui est à Chengdu dans le Sichuan. Donc le panda, qui est bien sûr l'animal emblématique de protection de la nature dans le monde et en Chine. Et d'ailleurs, les effectifs de pandas ont légèrement progressé. Ils sont passés de 1500, je crois, en 2013 à 1800 en 2014. Mais, et c'est là aussi qu'il faut bien replacer les choses, il ne faut pas se limiter à ces grandes espèces emblématiques, il faut bien les replacer dans leur milieu. Car, en effet, si on les prélève, enfin, si on les met dans des zoos ou dans des petites réserves pour les faire, entre guillemets, se reproduire et se développer, et qu'on laisse le milieu se dégrader, et là, c'est le cas également en Chine, avec des projets de centrales thermiques, des projets de mines à ciel ouvert dans le Sichuan, eh bien, ces animaux-là n'auront décidément aucun salut pérenne.
Alors, je voudrais vous faire entendre, il nous reste encore près de 10 minutes, je voudrais vous faire entendre à tous les trois, et bien sûr à tous ceux qui sont avec nous en ce moment, mais à vous en particulier, Farid Benhamou, je le rappelle, vous avez publié il y a très peu de temps, avec Rémi Marion, un livre préfacé par Valérie Masson-Delmotte qui s'appelle Géopolitique de l'ours polaire. Je voudrais donc vous faire entendre quelqu'un que vous avez forcément lu en faisant vos recherches pour écrire ce livre. Un extrait de cet auteur danois qui s'appelle Jørn Rils. Hein, alors, j'ai pas retrouvé de quel ouvrage, de quel roman exact c'est tiré, mais je sais que c'est un extrait d'un des volumes de ces fameux racontars arctiques pour lequel Jørn Rils est tout à fait connu. Et vous allez voir comment dans cette lecture donc est pris un peu le contre-pied de l'image d'Épinal, si j'ose dire, de l'ours polaire.
J'avais terriblement peur des ours. Depuis le jour de mon arrivée sur la côte Est, j'avais été nourrie d'histoires d'ours blancs, et aucun de ces récits ne parlait d'un ours amical ni même indifférent. Le simple fait de penser à ce rôdeur solitaire faisait se dresser les poils de ma nuque. Les ours étaient sournois, toujours affamés, toujours furieux, mortellement dangereux et malheureusement très très futés. Ils pouvaient se rendre invisibles sur la glace, en se cachant dans une congère, la patte sur leur museau noir. Ils attaquaient souvent depuis les collines de glace, en se laissant lourdement tomber sur le traîneau ou sur les chiens. Les ours étaient capables de réduire en miettes une cabane de chasseurs en quelques coups de patte avant gauche. Toujours la patte avant gauche, on disait, car ils sont gauchers, les ours.
Alors, il s'agit de la côte est du Groenland. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, tous les trois, qu'il convient de répondre à ceux pour qui cette grande faune, ce sont d'abord des prédateurs qu'on protège et de façon peut-être indue. Jacky Bonnemain.
Je ne comprends pas très bien la question. Ce que je voulais dire à propos des ours polaires, c'est qu'en 1973, il y a un traité qui a été signé par la Russie, les États-Unis, la Norvège, le Canada, en 1974, qui était... c'était formidable, c'est un beau rêve. C'était sauver les ours polaires considérés comme une ressource. Pas alimentaire, pas de biodiversité... une ressource, et il est toujours question dans ce traité, qui est toujours en vigueur aussi, de protéger les écosystèmes dont les ours polaires font partie. Et c'était un beau rêve, c'était un beau texte, c'était signé en 1973. Aujourd'hui, en 2015, on a observé, ou plus exactement, on a observé il y a deux ans, à la dernière convention plénière de la CITES, à Bangkok, que les États-Unis et la Russie, quand même, ensemble. Ils le feraient peut-être plus maintenant, mais ils l'ont fait à cette époque-là, avaient décidé de proposer l'inscription à l'annexe 1 de l'ours polaire. Pour empêcher le commerce international des pelisses d'ours polaires, voire d'ours polaires vivants. Ça a été refusé, grâce à l'Europe, grâce à l'Union européenne, qui s'est abstenue, et ça faisait 28 voix, et donc ça a été refusé. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'ours polaire est considéré comme un emblème, comme une vitrine, comme un bailleur de fonds, hein, faut le dire aussi, même par certaines ONG internationales. Mais son inscription à l'annexe 1 a été refusée. Non, nous, on défend la grande faune et on défend la petite aussi, chez Robin des Bois, on défend la petite aussi, bien sûr, les pangolins, les insectes, les oiseaux. En Amazonie, à l'heure actuelle, les oisillons qui se font capturer dans les forêts amazoniennes. C'est incroyable parce qu'après, ils vont être élevés et puis ils vont être vendus 2000 euros pièce et atterrir dans des cages s'ils ne meurent pas en cours de route en Chine, aux États-Unis, en Europe.
Alors, Jackie Benoît, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, donc je voudrais que Farid Benhamou puisse également réagir à cette lecture de Jørn Rils où justement. L'ours polaire n'est pas du tout montré sous ce jour emblématique. Et ma question, je vais essayer de la reformuler autrement, c'était justement, dans cette lecture, dans cet extrait de Jørn Rils, on peut avoir le sentiment que l'ours, que la grande faune est d'abord perçue comme prédatrice ou comme dangereuse. Et donc, ma question était, qu'est-ce que les uns et les autres, vous pensez qu'on peut, raisonnablement, opposé comme discours entendable par ceux justement qui disent que en protégeant les prédateurs, en protégeant la grande faune, pardon, on protège des prédateurs qui sont nuisibles. Voilà. Farid Benhamou.
En général, les populations qui vivent au plus près des prédateurs, depuis longtemps, ne sont jamais partisanes de leur extermination et de leur destruction radicale. Ils peuvent être amenés à les chasser, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut considérer que, pour en revenir à la CITES, le maintien de l'ours polaire à l'annexe 2, vu que ce n'est pas la chasse qui est la principale source de danger pour l'ours polaire, plutôt les pollutions et le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui peut être maintenu, on pourrait le dire. Et c'est valable pour également en Europe et partout dans le monde où en gros on a une espèce de géodiversité, c'est-à-dire une culture qui a coévolué avec la contrainte que pouvaient être ces prédateurs. Et c'est justement la disparition de cette géodiversité et aussi de ces cultures qui est aussi responsable de la disparition possible de ces grands prédateurs. Et je pense que cette cohabitation est tout à fait possible si on veut un avenir durable pour nos propres sociétés.
Jean Estebanès, votre point de vue sur cette question, que dire à ceux pour qui la grande faune est d'abord prédatrice?
Bien, je pense qu'effectivement, là, Farid Benhamou a tout à fait raison. Hein. Cette question, elle est très largement nuancée, et à commencer par ceux qui vivent au plus près de ces animaux, qui ne sont jamais que des prédateurs. Ils le sont parfois, ils font parfois peur, mais ils sont aussi respectés pour cela. Et donc, je pense que ces discours très, très forts, très radicaux, sont souvent des discours de personnes qui n'ont pas à être confrontées directement avec les animaux, parce qu'ils en verraient toute la nuance. Au fond, il suffit de voir la façon dont se déroulent les interactions avec les populations locales pour voir que ces animaux sont très complexes et ils vont être à la fois des compagnons, des prédateurs, des ennemis parfois, mais qu'ils sont de toute façon complexes.
Immergés dans la nuit de lave, l'étoile filante et nue sans entrave, dans le chaos. Se tord, s'étire et se déhanche, luisant dans sa tenue élastique. Et je tombe patatras dans la vapeur super tropicale. Je suis celui qui te boit et qui te dévore, où tu veux, quand tu veux. Ces petits seins pharaoniques, dansant comme des balles de plastique, tracent des huit. Sur ma cervelle en ébullition, et sous ta jambe en crier les lions, les noirs jaguars et les
Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. Jackie Bonnemain, Farid Benhamou, qui était en duplex de France Bleu Poitou, et Jean-Esteban Aize, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos publications et activités sont sur le site web de France Culture à la page de Planète Terre. C'était donc « La grande faune est-elle condamnée à disparaître ?» en partenariat avec Carto, qui publie ce mois-ci un article de Farid Benhamou et de Rémi Marion sur l'ours polaire et sa géopolitique. Nous quittons donc avec Jungle Pulse d'Étienne Dao. Luc-Jean Reynaud, Emmanuel Morse-Duncan, Catherine Madure, France Bleu Poitou et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission. Cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours, la podcaster durant un an. Vous pouvez également la suivre et la partager sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre attention. Alors demain, jeudi à 16h, dans Culture Science, ne manquez sous aucun prétexte la marche des sciences d'Aurélie Luneau, qui évoquera un grand portrait, celui d'une biochimiste révolutionnaire, chasseuse non pas de loups mais de bactéries, Pascale Cossard.